Nous allons commencer notre étude aujourd'hui dans 1 Timothée chapitre 6 pour terminer le chapitre que nous avons devant nous et en même temps aussi la première épître. C'est incroyable que déjà nous avons traversé cette première épître de Paul à Timothée ensemble. Et je prie que tout ce que nous apprenons soit pour la gloire de Christ et pour notre bien-être aussi. Alors prions, et puis nous allons lire ce passage. Et je voudrais parler au sujet de ce dépôt dont Paul dit à Timothée de garder. Quel est ce dépôt que nous devons garder en tant que serviteurs de Dieu? Mais prions d'abord. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler une fois encore et étudier ensemble ta parole. Merci Seigneur pour ce privilège, non seulement de lire les versets qui sont devant nous, mais d'avoir une certaine compréhension donnée par ton esprit de grâce, afin que nous comprenions les choses qui concernent ta gloire et surtout la gloire de ton Fils, le Saint Jésus-Christ, par qui tu fais tout. Tout ce monde est gouverné par ton Fils, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est lui qui dirige toutes choses, non seulement dans le monde, mais au sujet même du salut des pécheurs tels que nous sommes. Alors, Seigneur, je te prie de nous donner davantage cette connaissance de ton Fils et que par ta grâce, tu nous diriges à mieux connaître tout ce que tu révèle dans ta parole concernant son œuvre rédemptrice et sa gloire, la gloire de sa personne. Et dans cela, nous te remercions et nous te donnons toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, ici dans 1 Timothée 6, voilà la conclusion de cette première épître que Paul a écrit depuis la prison. Je sais que ces deux épîtres de Paul à Timothée étaient les dernières avant qu'il ne soit exécuté. On sait qu'il était prisonnier des Romains, mais lui-même, il avoue qu'il n'était pas le prisonnier de César, mais le prisonnier de Jésus-Christ. Et même en prison, à cause du témoignage qu'il rendait de Christ et la persécution qu'il subissait, surtout à la main des Juifs, c'était eux qui ont voulu l'arrêter parce que le message de Christ, le message de la grâce qu'il annonçait, contredisait le message des œuvres que les Juifs croyaient. Et vous voyez, la même bataille continue aujourd'hui. C'est toujours la grâce et les œuvres. Et c'est les œuvres qui sont contre la grâce. C'est toujours ce conflit dont Dieu a ordonné et parlé dans le livre de Genèse depuis la chute, lorsqu'il a dit qu'il y aura de l'inimitié entre le serpent et la femme. Et c'est le même conflit qui continue entre Caïn et Abel. Mais à la base, c'est le conflit entre Satan et Christ. Parce que Satan était au départ un ange que Dieu a créé avec d'autres anges, mais il s'est rebellé contre le trône de Dieu. Et depuis lors, ce conflit continue. Mais je dois dire qu'il n'y a pas de surpris avec Dieu. Tout se déroule exactement comme Dieu l'ordonne. Il est souverain. Et quelles que soient les luttes contre le message de Christ et contre la parole de Dieu, c'est Dieu qui règne. Ça, nous pouvons nous rassurer de cette vérité. Alors, c'est pourquoi Paul, ici, en parlant à Timothée, parle comme si c'est urgent de garder cette vérité, appelée ici le dépôt, verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Alors, on voit la tendresse avec laquelle Paul s'adresse ici à Timothée lorsqu'on lit « Ô Timothée ». Voilà quelqu'un qui était cher au cœur de l'apôtre Paul et qu'il considérait comme un fils, quoique Paul lui-même ne s'est jamais marié, tel était le chemin que Dieu a ordonné pour lui, qui passe toute sa vie comme célibataire, mais c'était pour la gloire de Dieu, parce qu'il voyageait beaucoup. Ce n'était pas que ce n'était pas permis qu'il soit marié, mais comme nous savons, nous qui sommes mariés, et lorsqu'on a une femme et des enfants, une famille, il faut dire que notre temps est partagé maintenant, parce qu'il faut s'occuper de la famille. Il faut aimer la femme comme Christ a aimé son Église. Il y a des responsabilités dont on ne peut pas ignorer. Mais pour l'apôtre Paul, il considérait le don de célibat comme une grâce qui lui permettait maintenant de voyager, de prêcher sans contrainte. Lorsqu'il était quelque part ou même en prison, il n'avait pas dans son esprit à penser à sa famille comme d'autres pourraient avoir ce double fardeau d'être sous la persécution à cause de l'évangile de Christ et puis en même temps le fardeau et des soucis de la famille. Mais pour Paul, Timothée était non seulement un associé en tant que prédicateur, mais un fils véritable dans le Seigneur. Nous avons vu cela dès le premier chapitre, où dans le chapitre 1, le verset 2, Paul s'adresse à Timothée. Il dit « Mon enfant légitime en la foi ». Et quand il dit « légitime », il veut dire qu'il partage la même foi. Vous savez, il y a beaucoup qui font profession de foi. Quand on leur demande « Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ?», ils vont dire « Oui ». Mais sur quelle base ? Est-ce que cette personne est enfant de Dieu sur la base de l'œuvre de Christ et ce que Christ seul a accompli, ou bien est-ce qu'il s'imagine enfant de Dieu basé sur ses œuvres? Quand Paul dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, là il est en train de parler de la véritable foi. Cette foi qui révèle Christ et Christ crucifié, cette foi qui est le don de Dieu, cette foi qui amène chaque pécheur à se reposer sur la personne de Christ et son œuvre accomplie seule pour le pardon du péché. Et c'est tout. Par contre, dans 1 Timothée 6 et le verset 21, Paul parle là de ceux qui disputent, basés sur, il appelle là, la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Donc, Timothée, un enfant légitime en la foi, en contraste avec ceux qui se sont détournés de la foi. Cela ne veut pas dire que quelqu'un peut, pour un certain temps, être dans la foi et puis maintenant ne plus être dans la foi. On ne peut pas perdre le véritable salut que Dieu donne. Je sais qu'il y a certaines organisations, certains groupes religieux qui disent que oui, c'est possible de perdre le salut. Je dirais qu'on peut perdre ce qui est de l'homme, ça c'est sûr. On peut perdre une certaine profession de salut, mais si Dieu sauve, on ne peut jamais perdre ce salut-là. Alors, quand Paul écrit ici de ceux qui se sont ainsi détournés de la foi, il s'agit de ceux qui ont eu l'occasion d'écouter le message de la grâce de Dieu, mais laissés à eux-mêmes, maintenant se sont détournés. Ils sont allés dans un autre sens que cette véritable foi. Et nombreux sont ceux qui tombent dans cette catégorie-là. Depuis des années que le Seigneur m'a donné à prêcher l'Évangile, j'ai eu pas mal qui ont écouté et qui ont suivi pendant un certain temps, et puis après, maintenant, sont retournés encore dans leur profession d'œuvre et, en fait, sont devenus ennemis de la foi. Parce que quand quelqu'un se détourne de la vérité en ce qui concerne Christ et l'Évangile, il faut dire que sa conscience maintenant est endurcie, son cœur est endurci. Dieu l'abandonne à son propre sens et à sa propre science, appelée ici une fausse science, parce que science veut dire connaissance, et laisser à eux-mêmes, maintenant, tout ce qu'ils vont faire, c'est contre l'Évangile. Et la Bible nous met en garde. C'est pourquoi Paul dit à Timothée de garder le dépôt. Le dépôt, c'est comme il a déjà parlé plus haut dans le chapitre concernant la véritable richesse qui est en Jésus-Christ, en contraste avec ce qui est faux, un trésor qui n'est pas placé sur ce fondement solide. Et ce dépôt, c'est la vérité, c'est les richesses de Dieu en Jésus-Christ révélées ici dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut garder. Ce n'est pas que c'est entre nos mains, mais garder dans le sens que on ne peut jamais laisser quelqu'un nous arracher ce que Dieu a révélé dans nos cœurs. On peut peut-être nous enlever nos biens par la persécution. On peut même nous ôter la vie, si tel est le cas, mais on ne peut jamais nous arracher ce trésor, la révélation de Christ que Dieu donne, parce que ça, c'est un trésor qui est placé sur ce fondement solide qui est Christ. Et tout ce que Christ est venu accomplir, il a accompli une fois pour toutes, afin que le salut soit certain. Alors, telle est notre assurance si nous sommes en Christ. Mais d'autres, comme il décrit ici, qui se sont détournés de la foi, ceux-là sont décrits surtout dans l'Épître aux Hébreux. Je sais qu'il y a certains qui attribuent l'Épître aux Hébreux à l'apôtre Paul en tant qu'auteur, mais le nom de Paul n'est pas mentionné dans cet épître. Et nous savons surtout que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'auteur, pas l'homme. Alors, peu importe l'instrument humain, nous savons que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi souvent je dis que celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, sans mentionner que ce soit Paul, parce que nous ne savons pas. Mais ici, dans Hébreux chapitre 6, l'auteur dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alors voilà le conflit que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est depuis la chute de l'homme. Il y aura tout juste ce conflit entre la grâce et ce qui est écrit ici comme les œuvres mortes. C'est entre la parole de Christ et la parole et les traditions vaines des hommes. Il y a seulement ces deux catégories-là. Soit nous sommes en Christ, ou bien nous sommes toujours dans les ténèbres et sur un faux fondement des œuvres mortes. Alors, ici, l'exhortation, c'est de ne pas, quand il dit « laissant les éléments de la parole de Christ », il ne veut pas dire qu'on peut maintenant, ayant appris certaines vérités au sujet de Christ, on peut aller maintenant voir autre chose. Ce n'est pas de ça qu'il dit. Mais quand il dit les éléments de la parole de Christ, il est en train de dire qu'on ne doit jamais toujours revenir sur les bases de la doctrine de Christ. Si on doit toujours revenir encore pour poser ce fondement de nouveau, il n'y a qu'un seul problème. Le problème, c'est que nous avons des auditeurs qui ne sont pas en Christ. Ils sont encore morts dans leur péché. Et c'est pour ça qu'ils ne saisissent pas le message de Christ. On ne peut pas, avec le raisonnement humain, raisonner avec des hommes en sorte qu'ils arrivent à comprendre ou appréhender le message de Christ. Ça, c'est pas révélation. Alors, l'auteur ici, en train de parler de ce fait, il dit, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. S'il faut toujours se lever et renoncer les œuvres mortes, parce qu'il y a des gens qui ont cette tendance de retourner encore à leurs œuvres, etc. Le problème, c'est qu'ils sont encore dans le péché. Ils sont encore dans les ténèbres. Ils ne sont pas régénérés. Et je dois dire que ça, c'est un point qu'il faut accepter en tant que prédicateur de l'Évangile. Que dans nos assemblées, peut-être la plupart sont encore dans les ténèbres. Ce n'est pas le fait qu'ils assistent un lieu où tu prêches fidèlement l'Évangile qui fait qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Non. Je crains que la plupart à qui nous prêchons aujourd'hui, que ce soit à Shreveport, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, la plupart sont encore attachés aux œuvres mortes. Et ils viennent pour autre raison que d'être attiré à Christ par le message. Les gens peuvent venir au culte pour pas mal de raisons. Peut-être leurs amis sont là, ou bien leur famille, ou bien ils aiment le prédicateur, ils aiment sa manière de prêcher. Il y a beaucoup de raisons que les gens peuvent venir, même par obligation. Ils peuvent dire, ah, c'est dimanche, et voilà, l'église de la grâce qui est à côté, je vais aller m'asseoir, assister. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens viennent. Mais il ne faut pas penser que, puisqu'ils sont assis devant nous, que cela veut dire qu'ils sont enfants de Dieu. Non. Être enfant de Dieu, c'est d'être élu par la grâce de Dieu, racheté par Christ et attiré à Christ par son esprit. Alors, c'est pourquoi l'auteur dit ici, en parlant des œuvres mortes, il dit de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il dit, il y a tous ces sujets qui sont primordiaux dans l'esprit des gens, et ils sont attachés à ces sujets que d'être attachés à Christ. Nous savons que c'est le cas aujourd'hui. On peut annoncer une étude biblique, et quand les gens viennent, ils ont toutes sortes de questions sur le baptême, sur l'imposition des mains, sur la résurrection des morts, le jugement éternel, la foi. On peut même passer du temps à parler de la foi, etc. Mais si on ne fait que prendre cette parole et étudier cette parole pour savoir qui est Christ et ce qu'il a accompli et pourquoi il est venu dans ce monde et pour qui il est venu, je dois dire que les gens vont dire que c'est pas pour ça qu'ils sont venus, qu'ils ont toutes ces questions. Et si en tant que prédicateur on se laisse détournés par leur sujet et les questions qu'ils ont, et on n'arrive jamais à simplement et clairement prêcher Christ et Christ crucifié, donc ils vont rester toujours dans les ténèbres, parce qu'il n'y a qu'un seul message que Dieu bénit pour le salut des pécheurs, et c'est ce message de Christ et Christ crucifié. Alors, l'auteur ici est en train de dire, sans retourner dans ces sujets et reposer le fondement de nouveau, il dit, nous allons laisser les éléments de la parole de Christ et tendons à ce qui est parfait. Il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, tendons à ce qui est parfait, c'est de mûrir. Le mot parfait, là, veut dire mûrir dans ses doctrines. On ne peut jamais approfondir ce sujet de la grâce de Dieu. C'est comme l'océan sans fond. Et on ne peut jamais approfondir le message de Christ et Christ crucifié. Voilà un sujet que pour l'éternité, nous allons étudier, parce que au ciel, l'auteur de l'Apocalypse dit que le sujet autour du trône de Dieu sera l'agneau immolé. Nous serons en train de louer et apprendre de l'agneau pendant l'éternité. Alors, si tel n'est pas l'intérêt qui est donné au cœur aujourd'hui de ceux qui professent être enfants de Dieu, alors ils ne seront pas au ciel, parce qu'il n'y a qu'un seul objet de gloire au ciel, c'est Christ et Christ crucifié. Il n'y aura pas parole de tous ces autres sujets que les gens aiment discuter. Mais il dit ici dans Hébreux 6, c'est le verset 4, et voilà le point clé avec ce que nous lisons dans 1 Timothée 6 et le verset 20 de ceux qui se sont détournés de la foi. Voilà, ils sont décrits ici. Hébreux 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, notez bien, ça ne dit pas une fois régénérés, mais éclairés. On prend la lumière et on éclaire dans une chambre qui est sans lumière, ça éclaire, et qui ont goûté. Ces mots sont importants, ça ne dit pas qu'ils ont mangé, avalé le pain de vie, mais goûté le don céleste qui ont eu part au Saint-Esprit. Cela veut dire qu'ils ont vu avec leurs propres yeux la conversion d'autres pécheurs, parce que c'est le don céleste de la part du Saint-Esprit. Ils ont vu d'autres qui se sont attachés à Christ sans eux-mêmes avoir été attirés. Ils ont vu même les miracles de Christ et des apôtres qui affirment que Christ est le Messie. Ils ont goûté, mais sans manger. Vous savez, si vous invitez quelqu'un à manger, mais cette personne ne s'assoit pas réellement avec vous pour manger, tenant debout, il prend peut-être une petite partie et il goûte le repas et puis il s'en va. Celui-là, on ne peut pas dire qu'il a mangé avec nous. Et il y a beaucoup qui sont comme ça, ils goûtent. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont goûté ce don qui est donné à ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Cela veut dire Dieu le Père les a choisis dans sa grâce et Christ est mort pour eux. Alors, c'est pour eux qu'ils ont goûté de ce que les autres ont reçu pour manger. Mais c'est écrit ici, verset 5, « Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. » Chaque fois que quelqu'un observe et voit la manière que Dieu convertit des pécheurs, ouais, ils ont goûté les puissances du siècle à venir. Cela veut dire cette œuvre de Dieu pour l'éternité. Mais dans d'autres, ils ont goûté dans le sens qu'ils ont vu, comme beaucoup ont vu la conversion de l'apôtre Paul, qui était pendant un certain temps un des leurs, mais maintenant, étant converti, il s'est attaché à Christ. Mais ceux-là ne l'ont pas suivi. Par contre, ils l'ont poursuivi. Ouais. Ils préféraient qu'il soit mort que d'accepter sa conversion comme étant la vérité. Il y a beaucoup comme ça. Et nous allons subir les mêmes expériences. Moi-même, je peux le dire, depuis 1984, quand le Seigneur a fait son œuvre de grâce dans mon cœur. Et au fur et à mesure que je prêche ce message, il y a une séparation avec beaucoup qui ne peut pas accepter que ce message c'est la seule vérité. Ils veulent dire, ah ouais, mais ça va, si tu veux croire comme ça, mais c'est pas pour nous. Donc il y a une véritable séparation. Ceux-là, ils ont goûté cette bonne parole. Chaque fois que nous avons l'occasion de témoigner avec ceux-là de la grâce de Dieu et de ce qu'il a fait en nous, ils ont l'occasion de goûter cette bonne parole. Mais ça, cela ne veut pas dire qu'ils acceptent. Cela ne veut pas dire qu'ils sont convertis. Et c'est écrit dans le verset 6, et qu'ils sont tombés. Cela veut dire ils ont laissé cette voie pour retourner à leur propre voie. C'est écrit, soit encore renouveler et amener à la repentance. C'est impossible. Cette phrase commence dans le verset 4. Car il est impossible que cela soit encore renouvelé et amené à la repentance. Cela veut dire le fait de se détourner de la foi est une évidence que Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé à jamais. Parce que un pécheur ne va jamais se repentir sans que Dieu ne lui donne la repentance. J'entends certains dire, oui, mais la foi, c'est vrai, c'est Dieu qui doit donner la foi, mais c'est à l'homme de se repentir d'abord. Et s'il se repent, donc Dieu alors peut lui donner la foi. Non, la foi et la repentance sont les dons de Dieu. Et si Dieu laisse un homme ou une femme aller dans un sens qui est contre l'évangile de la foi, ça c'est évidence que Dieu a rendu son jugement et cette personne, c'est écrit, il est impossible que de telles personnes soient amenées de nouveau à la repentance. Puisqu'il crucifie, notez bien verset 6, il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Voilà le point clé du jugement de Dieu. Soit que nos péchés ont déjà été portés par Christ et enlevés, et à cause de sa mort, nous sommes sauvés, pardonnés. Ce n'est pas à cause d'une quelconque foi en nous ou une repentance, non. C'est à cause de la mort de Christ. La foi et la repentance sont les fruits de ce qu'il a accompli. Ça, c'est les bonnes nouvelles que lorsque Dieu révèle ça au cœur, ça nous réconforte parce que de savoir que même lorsque je suis né dans ce monde, quoiqu'à ce temps-là, je ne connaissais pas Christ, mais si je le connais aujourd'hui, c'est parce que mon compte a déjà été réglé à la croix. C'est à la croix que tous ceux qui sont à Dieu en tant qu'enfants de Dieu, leur compte a été réglé. Ils ont été justifiés, déclarés justes une fois pour toutes à la croix, même avant qu'ils ne soient nés. Alors, ce n'est pas au moment où je crois que je suis justifié. Là, alors, la justification serait basée sur ma foi. Cela est impossible. Non, c'est lorsque Dieu révèle Christ à mon cœur que je constate que mon compte a été réglé, j'étais réconcilié avec Dieu depuis la mort de Christ, parce que c'est la mort de Christ qui réconcilie les pécheurs. Et si quelqu'un a une doctrine qui est contre cette vérité, donc Hébreux 6:6 le décrit comme quelqu'un qui crucifie de leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Cela veut dire, c'est une manière de renoncer la mort de Christ, renoncer Christ, c'est de dire que sa mort ne suffit pas, qu'il faut aussi ajouter les œuvres de l'homme pour que ça soit efficace. Ça, c'est le blasphème, mais c'est ce qui est prêché dans beaucoup de milieux qui se disent chrétiens ou évangéliques, mais ils prêchent un message mixte. Ils disent, oui, que c'est vrai, il faut la mort de Christ, mais il faut aussi la décision de l'homme. Il faut aussi que l'homme fasse sa part. Et ce message est prêché partout, mais c'est le mensonge. Et nous devons renoncer à ce message. Et voilà le conflit, parce que quand tu commences à renoncer ce message, vous aurez cette même haine et colère contre vous que Christ lui-même a subi, les apôtres et tous ceux qui sont basés sur cette foi. Mais voilà la raison. Pourquoi, en entendant ce message exclusif, ce message qui donne à Christ toute la gloire dans le ciel, pourquoi il y a eu une telle réaction? Verset 7 de Hébreux 6 dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Cette terre abreuvée par la pluie représente ceux qui sont élus de Dieu depuis l'éternité et pour qui Christ est mort. Et voilà la pluie de la bénédiction de Dieu, l'œuvre de l'Esprit en révélant Christ dans de tels cœurs, ça produit et ça cause une bénédiction, notez, de Dieu. Tout le fruit est la bénédiction de Dieu. Mais notez verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Peu importe la pluie qui tombe sur des épines et des chardons, le résultat serait toujours que ça reste des épines et des chardons. Les épines et les chardons ne peuvent pas porter un fruit agréable à quoi que ce soit. Alors, verset 7 représente la grâce de Dieu. Verset 8 représente ceux qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont morts dans le péché. Et peu importe la pluie qui tombe sur les épines, il reste toujours des épines. C'est comme ça aussi la différence entre une brebis et des boucs. On ne peut pas faire une brebis d'un bouc. Un bouc reste toujours un bouc. Une brebis est toujours une brebis. Et Christ dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux que le Père lui a donnés. Ce sont des brebis. Mais il disait aux pharisiens, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ceux qui sont des boucs resteront toujours des boucs. Ceux qui sont des chardons resteront toujours des chardons, des épines. Et c'est une évidence, comme verset 8 de Hébreux 6 dit, une évidence qu'une telle personne est réprouvée. Déjà. Voilà un Dieu que le monde ne connaît pas parce que le monde aime parler toujours d'un Dieu d'amour, un Dieu qui aime tout le monde et qui ne peut jamais envoyer qui que ce soit à l'enfer. Voilà un Dieu que le monde aime. Le monde ne connaît pas un Dieu qui sauve, mais aussi qui réprouve des hommes. Il laisse des hommes à eux-mêmes, il condamne des hommes. Tel est le droit qu'il a de sauver ou de condamner. Ça, c'est son droit. Et ce n'est pas entre les mains des hommes, mais c'est entre la main de Dieu, cette décision. Alors, revenons dans 1 Timothée chapitre 6 pour terminer. Ouais, Paul donne alors ses instructions à Timothée. Gardez le dépôt. Si vous voulez savoir quel est notre devoir en tant que prédicateur de l'Évangile, serviteur de Dieu, c'est simple. Garde le dépôt. Cela veut dire nous sommes les gardiens de ce que Dieu a révélé par son esprit dans nos cœurs. C'est de garder cette vérité concernant Christ, la doctrine de Christ. Ce n'est pas les doctrines, la doctrine. C'est l'enseignement, c'est la révélation de Dieu concernant son Fils et de la manière que Dieu a choisi de sauver les pécheurs qu'il veut et les sauver par un seul moyen. C'est dans le sacrifice efficace de son Fils. On doit insister, le sacrifice efficace de Christ. La Bible ne connaît pas un sacrifice d'un quelconque Jésus qui est mort pour tenter de sauver tous les hommes, mais hélas, les hommes ne veulent pas l'accepter, alors, par finir, Dieu doit les condamner. Non, la mort de Christ était un jugement rendu à l'égard d'un peuple certain, un peuple élu, des pécheurs de toute langue et de toute tribu, choisis par Dieu, et tous ceux pour qui Christ est mort sont sauvés. C'est la mort de Christ qui les sauve. Bien vrai, peut-être ils ne sont pas encore appelés à Christ, et ça c'est le but de prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas en train de vaincre, convaincre le monde, non. Nous sommes sur le chemin, nous sommes sur la piste en cherchant ces brebis de Dieu qu'il a donné à Christ, et pour qui Christ est le bon berger, et pour qui Christ est mort. Ouais. Mais le reste sont laissés à leur sens réprouvé. Et c'est pour ça, deuxièmement, nous gardons ce dépôt, et deuxièmement, évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science. Il y a des gens qui vont vouloir nous débattre. À travers les années, j'ai reçu pas mal d'invitations d'aller débattre avec les infidèles, les incroyants, ce message. Mais je ne le fais pas, parce que nous ne sommes pas appelés à faire des discours vains et profanes ou des disputes de la fausse science. Les gens qui sont du monde aiment ces techniques, mais ils s'opposent parce qu'ils sont ennemis de Christ. Alors, ce n'est pas à nous d'aller faire combat avec eux ou les débattre. Non, nous n'avons qu'une seule tâche, et c'est la prédication de ce message. C'est pourquoi Paul, en écrivant aux Corinthiens, ce n'est pas que Paul ne pouvait pas discuter ou bien disputer, mais il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 1 et 2, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer. » Notez, le témoignage de Dieu. Dieu n'a qu'un seul témoignage, c'est le témoignage de son Fils. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ouais. Je n'ai pas eu la pensée de savoir. Il a, avec distinction, déterminé de ne pas faire des discours ou disputer avec ses ennemis de la croix. Et nous devons avoir la même persuasion. La seule manière que Dieu révèle Christ aux hommes, c'est par la prédication de l'évangile. Le monde considère ça comme une folie, parce que le monde va vouloir discuter et disputer, mais non, ce n'est pas de cette manière que Dieu nous ordonne de faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, Paul dit ça. Il dit dans le verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, plus tard, il dit dans le verset 22 et 23, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Voilà tous les sujets que les gens aiment poursuivre. Mais Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Les Juifs représentent les religions aujourd'hui qui sont attachées aux œuvres. Scandale. Pourquoi? C'est un scandale. C'est parce que l'Évangile ne donne aucune gloire à l'homme. Ça ne reconnaît pas même une œuvre de l'homme étant juste devant Dieu. Toute notre justice n'est que des vêtements souillés. Alors, quand on annonce ça, ça devient un scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Parce que les païens se basent sur leur propre intelligence. Alors voilà le devoir que nous avons de rester attachés à Christ. Et c'est pourquoi Paul termine le chapitre et la première épître avec cette bénédiction, que la grâce soit avec vous. On a besoin de la grâce face à notre cœur pécheresse. On a besoin de la grâce de Dieu face à l'opposition de l'homme et à toutes les tendances de nous détourner de cette foi. Mais si nous sommes vraiment à Christ et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu par sa grâce, c'est cette même grâce non seulement qui nous sauve, mais qui nous garde. Alors, ma prière, c'est que le Seigneur nous garde par sa grâce.